peu haut. Je suis plus petite qu'Alex. Bonjour à tous.
Alors bonjour à tous ceux que nous n'avons pas salués personnellement. Nous allons, comme on l'a un petit peu expliqué hier soir, mais pour ceux qui n'ont pas pu arriver hier soir tôt, dire que nous allons vraiment essayer durant ces trois cénacles et durant ce week-end d'essayer vraiment de suivre le Christ dans le cœur de sa révélation par rapport au couple, par rapport au mariage, aller vraiment au cœur de cette expérience et de son dessein de bonheur. Bonheur, c'est presque pâle de dire bonheur, d'intensité amoureuse, joyeuse, qu'il attend que chacun de nos couples vive. Et pour cela, l'Esprit Saint répand en nos cœurs sa force, sa puissance. C'est pour ça que ce week-end a été dénommé Cénacle. Cénacle, c'est le lieu, c'est la pièce où les apôtres ont attendu l'Esprit Saint à l'invitation du Christ. Et que de tout peureux, de tout fébrile à la peur des Juifs, ils sont sortis annoncer les merveilles du Seigneur. Et ces merveilles, cette folie dure depuis 2000 ans. Et donc c'est à une telle transformation que le Seigneur nous invite. Et donc nous allons essayer de cheminer durant ces trois cénacles. Tu veux peut-être nous les présenter, les trois cénacles.
Donc rapidement, le premier cénacle, ça va être sur les fondements du mariage et de notre couple. Et puis le deuxième va plus être sur comment construire notre vie de couple, sur quels piliers. Et le troisième sur notre avenir, nos enfants, qu'est-ce que le Seigneur met comme appel dans nos cœurs en tant que couple.
Voilà, et donc dans cette première partie, on va d'ailleurs beaucoup s'appuyer sur quelqu'un qu'on va fêter particulièrement dans trois semaines, puisqu'il va être reconnu officiellement bienheureux par l'Église, Jean-Paul II, dans tous les papes de l'histoire. Jamais un pape n'a fait un si long enseignement sur un même thème. C'était Jean-Paul II. Et quel thème? C'était le thème du mariage. 4 années d'enseignement le mercredi après-midi. En fait, des enseignements qu'il avait déjà préparés juste avant d'être élu. Mais la providence a fait qu'il a été élu pape. Et donc après, il a pu donner ce même enseignement, mais en tant que pape. Donc ça donnait toute une autorité, je dirais, à cet enseignement. Et le cœur de cet enseignement, donc le plus grand enseignement qu'un pape ait donné dans l'histoire, le pivot, c'est 12 versets qui sont dans le chapitre 19 de Matthieu, où dans ces quelques versets, dans cet événement, Jésus discute avec les pharisiens sur la question du divorce. Et donc pourquoi Moïse a autorisé le divorce, etc. Et Jésus dit quelque chose de très important. Par rapport à la question du divorce, il dit bien, mais aux origines, il n'en était pas ainsi. Et il rappelle les versets et des versets, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. Donc ça veut dire que Jésus dit... ce n'est pas simplement un texte historique, ce n'est pas simplement un texte biblique, c'est une actualité permanente dans l'histoire que pour comprendre le mariage, il nous faut revenir au dessein des origines. Et donc que la promesse de Dieu faite, entre guillemets, dans l'histoire, n'est pas simplement le passé, mais c'est la compréhension aujourd'hui du mariage. Donc ça veut dire que pour comprendre ce à quoi nous sommes appelés, ce à quoi tout homme, toute femme sont appelés dans le mariage, il nous faut venir aux origines. Et donc nous allons prendre quelques minutes. Bien sûr, on pourrait faire un cours très important, développer beaucoup de choses, cet aspect-là. On n'est pas là pour cela. On est là pour essayer de comprendre le cœur du dessein de Dieu dans l'amour que nous tissons en tant que couple. La première des choses qu'on pourrait dire de ressortir du premier texte de la Genèse, c'est que le couple est à l'image de Dieu. On dit souvent, et ça on l'a bien intégré en tant que chrétien, la personne est à l'image de Dieu. C'est pour ça qu'elle doit le respect, et c'est tout le domaine de la charité, etc. Parce que quand on sert l'homme, on sert Dieu. Ce qu'on ne sait moins, c'est que la parole de Dieu, le verset 27, souligne que l'image de Dieu est au niveau de la personne, mais elle est aussi au niveau du couple. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce que représente le couple, ce à quoi est appelé le couple, c'est à être l'icône et l'image même de Dieu. Ça montre ce qu'il est et ça montre aussi vers quoi il doit aller. En tant que confesseurs de la foi, les uns et les autres, la foi chrétienne, c'est la foi en Dieu Trinité. Et on comprend bien que l'image de Dieu, elle est bien au niveau de la personne, l'unicité, et aussi au niveau de la diversité et de la Trinité. Et donc, en tant que couple, nous sommes appelés à exprimer la vie divine. C'est pour ça d'ailleurs que naturellement, qu'on va parler que Dieu est amour à un enfant, il dit c'est quoi l'image de l'amour ? Eh bien, c'est papa et maman qui s'aiment. Et donc, c'est pour ça que le papa et maman qui s'aiment, effectivement, conduisent également vers la révélation de l'amour de Dieu. Deuxième élément, dans le deuxième chapitre de la Genèse, on passe sur la question de la création d'Ève. D'abord, si souligner quand même que Dieu constate qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc ça veut dire que nous aspirons fondamentalement, génétiquement, à un alter ego. Et qu'à l'alter ego, il n'est pas n'importe qui, n'importe quoi, puisque ce ne sont pas les animaux, etc. etc. Et puis c'est la création d'Ève, pas sur la question de la création, on se fait mal en passant sur beaucoup de choses, mais pour aller vraiment à l'essentiel. Qu'est-ce qui se passe quand Adam voit Ève ? Il ne dit pas, tiens, voilà une bonne copine. Il ne dit pas, voilà une fille qui est vraiment qui a l'air sympa. Tiens, je vais être bien avec elle. Non, il exprime un mot très fort, très intense. Il dit, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Je ne sais pas si vous avez utilisé ce mot-là quand vous avez déclaré votre flamme à votre bien-aimé, etc. C'est une expression peut-être. Mais en tout cas, ça exprime que le sentiment qui habite Adam vis-à-vis d'Ève, c'est pas petit, c'est profondément intense. Ça exprime une joie qui vient de très loin, qui prend tout l'être et qui est d'une intensité qu'on perçoit comme très importante. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le dessein de Dieu sur chacun de nos couples, c'est de vivre cette intensité d'amour, d'affection, d'attirance l'un pour l'autre. Cela est le dessein de Dieu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'est pas dans cette intensité, on n'est pas dans le dessein de Dieu, mais nous y sommes appelés. Et c'est pour ça que nous faisons alliance dans le mariage, on va le voir, parce que pour rentrer dans cette intensité, il nous faut du temps. Mais quand nous nous marions, nous ne voulons pas, en tout cas en tant que chrétiens, nous ne voulons pas simplement être bien ensemble. Nous sommes en tout cas appelés, on est libre, le Seigneur nous laisse libre. Mais il nous appelle à cette intensité relationnelle et amoureuse. Et nous avons à la recevoir de Dieu. Ça, c'est le dessein de Dieu. Et c'est pour cela que tout de suite, il est dit, mais on va y revenir peut-être longuement cet après-midi sur l'aspect du Cénacle, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et ils ne feront qu'une seule chair. Et donc, cette intensité de sentiments, de cœur que nous avons l'un pour l'autre, nous conduit à exprimer cette intensité qui va faire de nous, de deux êtres, un seul être. C'est pour ça que la sexualité, contrairement à peut-être ce qui a été exprimé et voilé par certaines années ou décennies de jansénisme dans l'Église, la sexualité est vraiment complètement au cœur du dessein conjugal. Parce que, et Jean-Paul II, et on dit que c'est Jean-Paul II qui le dit, sinon peut-être qu'on va nous traiter d'hérétique, Jean-Paul II va parler de la sexualité comme de la liturgie propre des époux. C'est un terme extrêmement fort. C'est-à-dire comme l'Eucharistie, la liturgie propre de l'Église, la sexualité conjugale et la liturgie propre de l'ecclésiola. L'église parle de la famille et du couple comme une petite église. Notre liturgie propre, c'est la sexualité. Et le lit conjugal est appelé l'autel du couple. Pourquoi ? Parce que ce que nous allons exprimer par nos corps est l'expression visible d'un mystère invisible. Quand un homme et une femme s'aiment et s'unissent selon les desseins de Dieu, ils révèlent, ils rendent présent, parce qu'ils sont l'image de Dieu, ils rendent présent Dieu lui-même. Et donc la présence de Dieu dans son intensité. Bien sûr, nous en sommes complètement indignes, mais c'est ce à quoi nous sommes appelés. Et il faut bien le cheminement d'une vie et de dizaines d'années de vie commune pour rentrer dans ce mystère, cette intensité. Après, c'est comme on veut. Chacun est libre, mais c'est ce à quoi nous sommes appelés. Le monde nous propose souvent des projets conjugaux de pacotille, d'ersatz, mais l'Église veut que nos couples vivent d'une intensité dont nous n'avons pas idée. C'est de cette intensité conjugale-là à laquelle nous sommes appelés, que le Seigneur veut pour nous. Et c'est ce que nous allons essayer de découvrir ensemble. Mais avant de le découvrir davantage, le contenu, le problème, c'est que après la révélation Genèse 1, Genèse 2, il y a eu un petit problème dans la mécanique.
Et ça, c'est aux femmes d'en parler, puisqu'elles ont initié l'affaire, mais... Ce serait trop long de revenir là-dessus, mais évidemment, Genèse 3, c'est un peu la catastrophe. Donc, Alex nous a brossé un tableau magnifique, mais nous ne sommes pas dans cette réalité-là. Nous sommes donc marqués profondément par la chute. La chute en Genèse 3, évidemment, on ne va pas s'étendre sur Genèse. Je me frustre terriblement parce qu'il y a tellement de belles choses dans la Genèse qu'on pourrait y passer des heures et des heures. Juste retenir quelles sont les conséquences du péché. Vous ne m'entendez pas ? Ma petite voix est trop petite. Je vais mettre plus près peut-être. Hein. Voilà. Je vais manger le micro bientôt. Ça va comme ça ? C'est mieux ? Oui ? Bon. Vous me dites si vous n'entendez pas. Hein. Voilà. Donc comment est-ce qu'on va juste relever les conséquences de cette chute, parce que ce serait trop long d'aller trop loin, et de tout décrypter. En fait... Cette catastrophe, cette chute, ce détournement de Dieu a fait en nous trois blessures existentielles que nous portons tous en nos cœurs. La première, c'est que nous avons altéré notre relation avec nous-mêmes. Je me suis blessée dans ma relation à moi-même. Je ne sais plus qui je suis et j'ai du mal à m'aimer. D'où tout le développement des machins, développement personnel, énéagramme, bidule chose, qui suis-je, comment vais-je, enfin bref. J'ai coupé le lien transparent qu'il y avait entre moi et moi-même. Et donc j'ai du mal à m'aimer. J'ai beaucoup de mal à trouver que je suis quelqu'un de bien. C'est d'ailleurs tout un cheminement spirituel que d'arriver à dire comme Sainte-Claire à la fin de sa vie, je te rends grâce Seigneur pour la merveille que je suis. Le jour où on pourrait vraiment dire ça en plénitude, il y a déjà une première guérison qui aura été reçue. Donc la première blessure, elle me blesse dans ma relation à moi-même. La deuxième blessure, je suis blessée dans ma relation aux autres et à l'autre. Et donc je vais expérimenter cette terrible réalité de l'amour auquel nous sommes particulièrement confrontés dans nos couples. Le bien que je voudrais faire, je n'arrive pas à le faire, comme dit Saint Paul. Et le mal que je voudrais faire, je le fais malgré moi. Donc je ne voudrais pas le faire, mais je le fais. Donc c'est ce qu'on vit dans un couple. Je désire donner mon amour à l'autre, et puis je vais lui dire un truc, et bam, catastrophe, il m'a mal le prendre, et ça va faire toute une mayonnaise, et il va falloir des heures pour s'expliquer. Voilà. Alors qu'au départ, je n'avais pas l'impression de vouloir faire du mal. Donc en fait, je vais être complètement blessée, et non seulement je ne vais pas réussir à aimer l'autre, mais je ne vais pas me sentir aimée par l'autre. Et donc, j'aurai jamais assez d'amour, parce que je serai toujours frustrée dans mon amour. Et l'autre ne va pas me le donner comme je voudrais qu'il me le donne, etc., etc. Donc, ça, ce n'est pas la peine de vous faire des dessins. En couple, on est tout le temps plongé dans cette réalité. Et dans cette blessure, toutes les dimensions de mon être vont être altérées. Donc, les dimensions, notamment de la vie conjugale, dans la relation. Donc, mère, père, époux, épouse, amant, amante, ami, enfin tout ce qui fait que ma féminité et ma masculinité dans cette relation sont faits pour se compléter dans une relation d'exultation, comme disait Alex, là ça va pas être forcément l'exultation tous les matins. Donc quand je ne suis pas dans l'exultation, c'est que ma blessure ou sa blessure ressort. Et cette blessure ontologique, elle est toujours en nous. Et la troisième dimension, qui est évidemment la plus grave, où je vais être blessée, c'est dans ma relation à Dieu. Et qu'au lieu de comprendre que Dieu est un Père dans lequel je peux me précipiter dans ses bras, quoi qu'il arrive, je vais commencer à me faire tout un cinéma sur Dieu que je vais prendre pour un père fouettard, pour un grand gendarme qui me surveille, pour ci, pour mi. Posez la question aux gens dans la rue quand ils vous disent qu'ils ne croient pas en Dieu. Et de quel Dieu parles-tu ? Parce que souvent, ils ont des idées de Dieu hallucinantes. Donc ça, c'est la marque du péché. Le malin a été tellement sournois qu'il a été jusqu'à blesser cette relation avec mon père, avec mon créateur, avec celui qui ne désire qu'une chose, c'est de m'aimer. Donc me voilà handicapée dans toutes mes relations. Et donc le couple en premier va être le lieu même où je vais me buter à ma pauvreté, me buter, me faire comment dire, réveiller ces trois blessures. Tant que je suis dans une espèce de foule anonyme où je choisis mes copains et que je change quand ça va plus, je peux encore gérer la situation. Mais je choisis de donner ma vie à l'autre pour le rendre heureux. Il choisit de donner sa vie pour me rendre heureux et on n'arrête pas de s'accrocher, de se faire mal. Donc nous sommes au cœur d'une expérience qui est une expérience extrêmement tragique. Nous avons, comme Alex l'a dit, en nous-mêmes une aspiration incroyable à vivre un amour pur, vrai, profond, intense, dans une communion où on va, c'est une complicité magnifique, etc. Et dans la réalité, ben, je me retrouve pas tout à fait dans cette vision-là, dans une pauvreté où malgré mes aspirations, eh ben, je vais avoir du mal à aimer l'autre. Je vais avoir du mal à me sentir aimée, je vais me sentir seule, je vais être dans une douleur qui fait que mon corps et mon cœur aussi vont être dissociés. Et donc je vais avoir du mal à exprimer avec mon corps exactement la justesse de mes propos. Voilà, tout est abîmé dans les dimensions de mon être. Donc en particulier dans la sexualité, c'est important de le dire parce qu'on en reparlera cet après-midi, la sexualité aussi, qui doit être une belle liturgie, une célébration, etc. Alex l'a dit tout à l'heure, magnifique. Mais quand je suis dans l'acte sexuel ou dans la relation sexuelle avec l'autre, je trimballe toutes mes blessures, je trimballe mon passé, je trimballe mes violences, mon agressivité, je trimballe mon égoïsme, mon péché, tout ça arrive aussi dedans. Donc certes, il y a une magnifique élan du cœur et du corps, mais il y a aussi beaucoup de choses à purifier parce que si tout arrive en vrac, eh ben je me trouve dans une situation où la sexualité n'est pas aussi simple que ça. Donc on reparlera de cette question-là. Mais voilà ce que, en Matthieu 19, Jésus appelle la dureté du cœur. Parce que pour reprendre cette conversation avec les pharisiens, pourquoi Moïse a-t-il autorisé qu'on répudie sa femme ? Et Jésus répond, c'est en raison de la dureté de votre cœur. Là, voilà la dureté de notre cœur, c'est que ces blessures, eh bien, pour nous en protéger, on se blinde et on devient dur. On a un cœur dur qui, pour se protéger, parce que forcément, dans cette espèce d'événement terrible de notre fragilité, eh bien, nous expérimentons des souffrances. Donc, nous avons un cœur dur. Et comme nous avons un cœur dur, ben, Moïse, il a trouvé une solution pour essayer de gérer les affaires au mieux. Mais ce n'est pas le dessein de Dieu. Le dessein de Dieu est bien que l'homme et la femme s'unissent pour ne faire qu'un, une seule chair, un seul être, dans toutes les dimensions de leur cœur, de leur corps, de leur esprit.
Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Est-ce que ça veut dire que le dessein de Dieu est irréalisable ? C'est la continuité de l'enseignement de Jésus dans Matthieu 19. Il y a trois versets qui sont absolument géniaux. Parce que de la scène, la discussion avec les pharisiens disparaissent, on ne sait pas pourquoi. Et à ce moment, ce sont les disciples qui discutent avec Jésus. Ils disent, écoute, si on a bien compris, vu tout ce que tu as rapporté, que vraiment, ce qui est décrit la Genèse, c'est une loi universelle, c'est présent, c'est, mais il vaut mieux pas se marier. La conclusion des disciples, lucide sur la situation conjugale, et peut-être qu'il le sera encore plus aujourd'hui, puisque quasiment 7 ou 8 couples sur 10 qui se mettent ensemble aujourd'hui sérieusement ne finiront pas leur vie ensemble. Effectivement, c'est malgré toutes les aspirations qu'on a dans le mariage, c'est finalement irréalisable. Donc il vaut mieux pas se marier. Puis, de toute façon, on sait qu'on va à l'échec. Et Jésus a une parole encore plus mystérieuse. Jésus n'est pas en train de leur dire « Mais si, vous allez y arriver, accrochez-vous, etc. » Non, il ne dit pas ça. Il dit effectivement, c'est pas possible. Sauf si vous en recevez le don. Sauf si jamais cela vous est donné. On est au cœur de la mission de Christ. Ce don, c'est lui-même. Ce don, c'est l'œuvre du Christ sur terre, dans l'histoire. C'est la rédemption du monde et c'est le salut donné au couple. Et c'est là où on est au cœur de ce qu'on a à partager avec vous et que chacun a intégré et a prié et a surtout à faire fructifier. C'est que génétiquement, fondamentalement, nous aspirons à ce mariage intense. Humainement, de par l'expérience du péché, de par les blessures qu'on a, mais on est vraiment mal foutu pour réaliser ce dessein. Mais le Seigneur ne nous laisse pas, il vient nous sauver. C'est pour ça que Jean-Paul II a fait ce parallèle très précis entre le baptême. Qu'est-ce que le baptême? C'est pas seulement la grâce de Dieu reçue, non. C'est le salut qui est donné à la personne. Jésus vient nous sauver en tant que personne. Le sacrement de mariage, Jésus vient sauver notre couple. C'est le don, le sacrement de mariage, c'est le don de Christ au couple en disant ce à quoi vous êtes engagé, ce à quoi vous aspirez, vous savez que vous ne pourrez pas y arriver de vous-même. Mais avec moi, avec ma grâce, avec ce don, vous allez y arriver. Et donc effectivement, qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que nous voulons vivre de cette intensité? Est-ce que nous nous rendons compte que plus on avance en âge, plus on se rend compte qu'on ne sait pas aimer et on ne sait pas se laisser aimer par l'autre? Et que malgré tous les désirs qu'on a, on se rend compte que vraiment on ne sait pas faire. Et que c'est le cœur de l'œuvre du Christ dans nos couples. C'est que ce dessein originel, cette exultation d'Adam et Ève, auquel on aspire, mais auquel ce n'est plus accessible, redevient accessible. Et effectivement, en tant qu'homme, en tant que femme, Alex et Maud, mais comme je pense la grande majorité des couples de cette terre, ne veulent pas vivre une histoire amoureuse qui soit de la bibine, qui soit un sentiment tiède. Nous aspirons à une relation intense. Enfin, en tout cas, nous, c'est notre cas. Je ne veux pas de la bibine. Et donc, c'est ce à quoi nous voulons, c'est ce que nous voulons méditer avec vous et avancer dans cette foi. Et c'est pour ça que cette invitation d'abord à rentrer dans ce cénacle, dans la foi, est-ce que je crois que Jésus vient sauver mon couple? Est-ce que je crois au cœur de ce qu'est le sacrement de mariage? Jésus me sauve. Et à ce moment-là, effectivement, il nous faudra l'accueil de l'Esprit-Saint pour que ce don de la foi fructifie en nous. Pierre croyait en la résurrection de Christ. Il avait vu ses plaies, il avait vu que Jésus était ressuscité, mais Pierre était pétri de peur. Et c'est l'Esprit-Saint qui lui a été donné qui a fait qu'à un moment, toute sa foi a commencé à porter du fruit. Et vous êtes là, vous ne le savez peut-être pas, mais vous êtes là pour ce week-end, pour que la foi grandisse en vos cœurs et en vos couples. Et que cette foi fructifie. Que ça soit un tsunami spirituel, dans un sens bien sûr positif. C'est-à-dire qu'il puisse vraiment ébranler votre cœur, vos cœurs, pour dire, cette intensité-là, mais je la veux. Nous la voulons. Mais c'est d'abord une question personnelle et c'est aussi une question conjugale. Qu'est-ce que nous voulons? Et pour mieux comprendre, pour dire que tout ce qu'on y raconte, c'est pas du violon, voyons un peu ce que dit Cana.
Donc on va parler, le texte de Cana, vous le connaissez avec cette magnifique histoire des noces. Donc Jésus commence sa vie publique par ce passage à un mariage, à des noces. Bien sûr, il y a tout un symbole de plein de choses qu'on pourrait dire sur Cana, mais on va se contenter de cette loi d'amour que le Christ vient nous annoncer dans ce miracle de Cana. D'abord, il parle de la loi du monde, ce texte. Quelle est la loi du monde, de l'amour? Vous tombez amoureux, le vin coule à flot, tout va bien, comme dirait...
Le bon vin est au début.
Voilà, alors on a le cœur qui fait boum boum, voilà, on est complètement... on a les mains moites, on ne dort pas bien, l'autre est notre tout, c'est, voilà, c'est le rêve, c'est la fusion, c'est tout, tout, voilà, tout, tout par l'autre, merveilleux. Ça, c'est très très beau. C'est le feu dévorant. Alors maintenant, ce feu dévorant, on n'a pas besoin d'être très très devin pour comprendre qu'en général, ça ne dure pas très longtemps. Donc les psychologues estiment autour de 3 ans maximum cette période dite amoureuse, passionnelle, euphorique, tout ce que vous voulez. Et donc le vin coule à flot au début de la noce et puis à la fin, ça devient de la piquette. Et puis quand il n'y a plus de piquette, c'est carrément de la flotte, quoi. Il n'y a plus rien. Donc l'amour vient à tarir. Ça, c'est la loi du monde. Et vous le voyez partout, dans les magazines, les machins, je ne sais plus quelle star en est à son 7e ou 8e mariage, et c'est toujours pareil, l'euphorie des débuts, et puis après, ça va décrescendo, et puis quand il n'y a plus rien, eh bien on dit, mais qu'est-ce qu'on fait ensemble? On ne sent plus rien, on n'a plus d'amour. Et on se sépare. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le cycle moyen d'un mariage en Europe, aujourd'hui, la moyenne, c'est 10 ans. Hein, y a même des pubs de matelas que je ne citerai pas, qui disent changer de matelas, changer de partenaire, changer de matelas, parce qu'il paraît que le cycle de vie d'un matelas c'est 10 ans, donc au moins voilà. Ou alors j'ai vu une pub il n'y a pas très longtemps, la voiture qui durera plus que votre couple, ou un truc comme ça. Donc c'est quand même assez terrible. Donc ça veut dire qu'on estime que dans la génération qui vont être là, qui commence aujourd'hui à se mettre en couple, tous les 10 ans ils auront un cycle conjugal différent. Le temps de tomber amoureux, de se séparer, de vivre l'épreuve de la séparation, de régler la question avec les enfants, puis hop, on va retomber amoureux et on recommence. Donc, par cycle de 10 ans en 10 ans, avec des enfants semés un peu partout, vous imaginez comment on va trouver les situations conjugales. Et il y en a déjà beaucoup autour de nous. Donc, c'est pas parce qu'on est chrétien que nous ne sommes pas susceptibles de ressentir cette loi du monde. Or, que fait Jésus ? Bien sûr, il faut remplir les jarres d'eau de notre eau. Les pères de l'Église ont vu toujours dans ces jarres de purification des Juifs toute la bonne volonté qu'on va mettre en œuvre, la prière, le jeûne, le dialogue, voilà, tous les outils humains et spirituels que nous pouvons mettre en œuvre. Nous allons les mettre en œuvre, remplir nos jarres d'eau. Mais que va faire le Christ? Il va transformer cette eau en un vin encore meilleur. Et encore meilleur. Et à chaque fois que Cana va se manifester dans nos vies, que le miracle de Cana va advenir, notre vin va être meilleur. Ça veut dire qu'au début, je sais qu'il y en a qui sont fiancés ici, alors quand on est fiancé, on imagine qu'on ne peut pas aimer plus que ça, sinon on va péter un plomb. Eh bien, vous n'avez rien vu. 10 ans, 20 ans, 30 ans après, notre amour est tellement plus beau, plus intense, plus profond, plus juste, plus gratuit. Et il nous faut des années et des années pour arriver à ça. Donc ça veut dire qu'avec le Christ, nous sommes dans la loi de l'amour en crescendo. On inverse tout. Jusqu'à présent, on était dans une loi implacable, où de toute façon, si je puis dire, comme disent les Indiens, la marmite allait se refroidir et tout allait s'assécher. Et nous sommes dans une perspective complètement autre. Le Seigneur nous dit, mais non, la loi de l'amour, c'est plus vous durez, plus c'est beau. À une condition, c'est que le Christ intervienne à chaque fois que nos marmites sont froides ou que notre amour est en train de perdre de l'énergie et de la force. Donc nous avons besoin en permanence dans nos vies de couple de supplier le Seigneur de vivifier notre sacrement de mariage pour qu'il soit efficace aujourd'hui, maintenant dans nos vies et qu'il renouvelle notre amour pour un vin meilleur. Et si on vous le dit, c'est parce que nous, on l'a expérimenté. C'est pas du blabla, c'est pas une parole de Dieu juste pour faire joli. C'est pas comme le sacrement de mariage, une belle photo sur la cheminée qu'on regarde de temps en temps avec nostalgie. Non, le meilleur jour de votre vie, c'est pas le plus beau jour de votre vie, c'est pas le jour de votre mariage, même si c'est très beau, ce n'est que le premier des plus beaux jours. Sinon, c'est dramatique. Excusez-moi. Si le jour du mariage était le plus beau, ben après, qu'est-ce qu'on fait ensemble ? C'est l'inverse. Le premier jour du mariage, c'est le premier des plus beaux jours, mais derrière, il y en aura un festival. C'est ça ce que le Seigneur nous propose de vivre. C'est ça son appel, et le sacrement de mariage, il va nous être donné pour ça. Pour que nous puissions prendre appui sur le salut que le Christ nous a promis. Et ce salut, nous allons le vivre au quotidien et le revivre au quotidien jusqu'à ce que nous arrivions au royaume, où j'espère nous resterons unis, mais ça c'est une histoire entre nous.
Vous savez, c'est la fameuse histoire de Jésus, enfin c'est, je ne sais pas le thème, si jamais je viens là-dessus, on en a pour 5 minutes. Un grand débat entre nous. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est on peut se poser une question en disant, bon, ok, le sacrement de mariage, c'est le salut donné au couple, ok, c'est bien. Pourquoi il y a autant de couples chrétiens qui divorcent ? Et pourtant, ils ont le sacrement de mariage, donc ils sont sauvés. Donc, la question de la foi, la question du sacrement dans l'Église, le Concile est très clair par rapport à cela, c'est que si jamais les sacrements que nous recevons ne sont pas vivifiés par une vie dans l'esprit, eh bien, souvent il reste lettre morte, c'est-à-dire que on a vraiment le salut qui nous est donné, comme un immense trésor. Vous avez 1 milliard d'euros sur votre compte en banque, sauf si vous n'avez pas le code d'accès, bah, c'est comme si jamais vous étiez SDF. Vous avez une magnifique limousine qui vous a été offerte pour votre mariage, vous n'avez pas les clés de contact, où il n'y a pas de gasoil. Bah ouais, bah ça sert à rien, elle va pourrir dans un coin du jardin, au fond du garage. Et c'est ça l'énorme problème, c'est qu'il n'y a pas foi chez nombre de chrétiens dans l'Église, il n'y a pas foi dans l'œuvre du sacrement de mariage. Donc est-ce que j'ai foi que Jésus vient me sauver ? On va y revenir à cette question. Quelle est la mesure de ma foi ? C'est un dé à coudre ou une piscine ou un océan ? C'est la question qui nous est posée. Et puis à la mesure de cette foi que nous avons, si jamais je n'accueille pas l'Esprit Saint, si jamais je ne le laisse pas inonder ma vie, si jamais je ne laisse pas vraiment venir comme je respire, si jamais et toute la respiration prend ma vie, prend mon être et me fait vivre au quotidien, est-ce que cet Esprit Saint, je l'accueille ? Est-ce que nous l'accueillons ? C'est la question fondamentale. Et c'est la question que Jésus a posée à Nicodème. Non, que Nicodème a posée à Jésus, excusez-moi. Le vieux Nicodème, on va dire, allez, Nicodème, c'est le vieux couple, ou chacun de nos couples. Ok, on vient à la retraite, on vient pour ce week-end, on a 2 ans de mariage, on a 30 ans de mariage, comment naître de nouveau ? Comment raviver la flamme ? Comment faire rebouillonner la marmite, qu'elle bouillonne encore plus qu'au premier jour ? C'est la question que nous posons à Jésus. Et c'est la question que Jésus pose à Nicodème. Et Jésus nous répond à chacun de nos couples ceci. Il te faut renaître et de l'eau et de l'esprit. Et de l'eau, c'est toute la question du baptême, et donc c'est toute la question de la foi. Sacrement de mariage, baptême conjugal. J'y crois ou j'y crois pas ? D'abord, est-ce que je crois d'abord à mon baptême personnel ? Est-ce que je crois que ça a été simplement un coup de goupillon et bienvenue dans le club église ? Ou vraiment la grâce de Dieu m'a sauvé ? Pareil pour mon couple. Et puis, et de l'eau et de l'esprit. Je ne peux pas goûter une vie nouvelle dans mon couple, je ne peux pas goûter un amour nouveau, je ne peux pas rentrer dans cette intensité à laquelle nous sommes appelés tous, illustrés par le mot, le cri d'Adam vers Ève, je ne peux pas accueillir cela si jamais j'accueille pas l'Esprit Saint. Naître et de l'eau et de l'Esprit. C'est pour cela que pendant ce week-end, nous allons accueillir Jésus dans son Eucharistie. Parce qu'on est au cœur du cœur du mystère du salut. Derrière l'Eucharistie, c'est tout le mystère de la scène, c'est tout le mystère de la passion, de la mort et de la résurrection de Christ. Et le salut qui nous est donné. On est en direct sur le cœur de notre foi. Et c'est pour cela que nous allons prier pour vous. Nous allons prier l'Esprit Saint pour que tout ça fructifie, pour que ça mette le feu. Parce qu'un amour et un mariage dans lequel il n'y a pas le feu, eh ben ça devient glacial, ça devient froid, ça devient le contraire de ce à quoi nous sommes appelés, et surtout ce à quoi nous aspirons. Vous comprenez bien que ce qu'on exprime là, bien sûr c'est dans un cadre ecclésial, chrétien, mais on essaye simplement d'ausculter le mouvement qui habite le cœur de tout homme. Quand on essaye de souligner ce à quoi un couple est aspire, ce à quoi un homme aspire vis-à-vis d'une femme, une femme aspire vis-à-vis d'un homme, ce qui est exprimé dans la sexualité, mais même si vous êtes bouddhiste, musulman, etc., etc., vous expérimentez une loi qui est inscrite dans le cœur de tout homme. Et que derrière cette attirance de l'homme vers la femme et de la femme vers l'homme, c'est ce mouvement qui habite la Trinité qui est inscrit en nous. Sauf que ce mouvement est perverti. Et que le salut du Christ vient rectifier cette dynamique. Quand à un moment, effectivement, on voit que la sexualité est profondément perverse et habitée par le mal, c'est pas la sexualité qui est mauvaise, c'est le mal qui est venu le pervertir. Et Jésus est venu nous dire, cela, nous allons le purifier ensemble. Mais tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord? C'est pour cela que l'Église dit, mais vous ne vous rendez pas compte, les couples, c'est que si vous accueillez le Christ, vous allez expérimenter une relation conjugale auquel vous ne pensiez même pas, vous ne doutiez même pas que c'était possible. Ça peut aller au-delà de vos rêves. Benoît XVI a une expression, Benoît XVI, on l'aime énormément, c'est notre pape, etc. Mais c'est vrai qu'il a un style un petit peu, avec ses chats, son piano, Mozart, enfin il a un style un peu 19e, quoi. Bon, hein, on se dit, à un moment, on a beaucoup de respect pour lui, mais à un moment, on se dit, il dit par rapport à l'intensité conjugale, il dit, le travail de conversion, d'exigence, de guérison, de libération, il prend ces mots-là, pour le mariage, va vous conduire dans une expérience conjugale, et notamment au niveau de votre sexualité, il est très clair aussi par rapport à ça, dans une expérience qui est la béatitude vers laquelle tend tout notre être. Nous sommes faits pour cette béatitude. Et l'Église le dit, Benoît XVI le dit, Jean-Paul II le dit. Nous sommes faits pour une vie intense. Alors, nous voulons une vie moyenne, fadasse, pas de problème. On est libre. Moi, ça ne m'intéresse pas. Nous, ça ne nous intéresse pas. Et si vous regardez chacun de vous, chacun de nos couples, on n'est pas intéressé par ça. Ou si jamais on est intéressé par ça, c'est parce qu'on se dit, mais j'aime mieux pas essayer d'aller trop loin parce que je risque de me blesser ou je risque de me fracasser. Et tu as raison, effectivement. Nombre de couples, par exemple, qui refusent le mariage ou de gens qui refusent le mariage, c'est pas qu'ils n'aiment pas le mariage, c'est qu'ils ont peur que ça fasse tellement mal. Parce que quand je vois tellement de gens qui se déchirent dans le mariage, ben vous ne pouvez pas se marier. Les gens ont peur des blessures et des souffrances. Mais Jésus nous dit, n'aie pas peur de l'intensité. N'aie pas peur de cet amour qui habitait, de cette communion, de cette attente qui habitait Adam et Ève. Parce que moi, je vais t'y conduire. Tu n'en es pas capable, je suis bien d'accord. Tu as bien raison. Tu es un bras cassé. Bienvenue au club, l'église, c'est une bande de bras cassés. Mais ensemble, je vais vous conduire à cette intensité-là.
Alors, on parlait d'une qui était une belle bras cassée, qui est la Samaritaine. Donc, si vous connaissez l'histoire de la Samaritaine, elle est passée d'homme en homme parce qu'elle cherchait l'amour. C'est une grande assoiffée d'amour. Et si elle passait d'homme en homme, c'est qu'à chaque fois, elle se disait, celui-là, il va me combler. Celui-là, ça va être le bon. Et puis non, c'était la catastrophe. Donc, elle est passée comme ça, de l'un à l'autre. Et quand elle a rencontré Jésus, enfin sa soif d'amour a été assouvie. Enfin elle a trouvé celui qui pouvait combler son cœur entièrement. Et elle nous apprend quelque chose de passionnant, cette Samaritaine. Bien sûr, elle est passée dans les bras de 6 hommes et le 7e, donc la perfection, c'était le Christ. Donc ça veut dire que l'aboutissement de toute notre soif d'amour, c'est le Christ. Alors c'est quelque chose qui surprend toujours les jeunes, ils nous disent à chaque fois qu'on intervient, mais vous faites un mariage à trois, vous n'avez pas peur d'être jaloux par rapport à la relation de l'autre avec Dieu, qu'est-ce que Dieu se met au milieu de vous deux et tout. Bon, ils n'ont rien compris à la choucroute, alors il faut réexpliquer tout. Si jamais je perds le lien avec la source même de l'amour, si j'attends que mon conjoint, aussi merveilleux soit-il, me comble de toutes mes attentes et mes désirs d'amour, je suis mal partie. Parce qu'avec toute la bonne volonté du monde, je crois qu'il n'arrivera jamais à combler ma soif d'amour et je n'arriverai pas mieux à le combler. Tant que je n'ai pas compris ça, je vais attendre de l'autre qu'il soit mon tout, le tout de mes besoins, le tout de mon amour. Mais c'est impossible, c'est une créature comme moi et limitée comme moi. Je ne dirai pas un peu plus, parce que ça relève de ta responsabilité. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que je suis chargée de sa conversion et lui de la mienne. Donc rassurez-vous, on s'y emploie. Mais si jamais ce n'est pas le Christ qui est, lui, notre amour, si ce n'est pas lui qui nous comble, si le Père ne nous a pas envahis de son amour, quel amour vais-je pouvoir redonner ? Au bout d'un moment, j'en aurai plus. On l'expérimente quand on est maman et qu'on a passé sa journée à courir, à donner aux enfants, donner aux enfants, donner aux enfants, et il faut encore se lever la nuit. Et il faut encore. Il y a un moment où on se dit, mais je suis au bout de ma capacité. Si je ne me laisse pas remplir par l'amour de Dieu, à un moment, mon réservoir personnel, il arrive à tarir, c'est normal. Donc, cet amour de Christ, la Samaritaine nous dit, voilà, l'amour de votre vie, c'est lui. Quand vous l'aurez compris, alors, vous pourrez aimer librement l'autre en acceptant que, comme vous, il soit un bras cassé. Et que vous soyez un bras cassé aussi. Mais le Christ, c'est une chance. Il aime bien les malades. Alors moi, je pense qu'il y a une des grâces dans l'Église qui est magnifique. C'est que nous ne sommes pas des héros, comme disait le Père Manaranche. Nous sommes des vénards. Nous sommes des vénards. Ça veut dire que nous, on a conscience que de toute façon, on ne peut pas y arriver. Alors les fiancés, soyez rassurés. Sans le Christ, c'est mal parti. Jean-Paul II disait, se marier aujourd'hui, un mariage sans le Christ, c'est courir un grave danger. Il était gentil, il essayait d'être prudent, parce que, de fait, l'Esprit Saint peut quand même intervenir en dehors des chrétiens, gloire à Dieu, et heureusement, sinon on en serait malades, nos chrétiens. Donc, bien sûr que l'Esprit Saint peut agir dans le cœur de l'homme et de la femme en dehors de l'Église. Mais pour nous, nous savons, en tout cas, nous, Alex et Maud, sans le Christ, on ne s'en serait jamais sortis. D'ailleurs, c'est une des premières choses que nous disent les enfants. De toute façon, vous, vous êtes le signe de la présence de Dieu, parce que c'est un miracle permanent que vous soyez ensemble et que vous vous aimiez. Au moins, ils n'ont pas eu d'illusions sur le sujet. C'était clair. Le Christ est l'amour de nos vies. Et quand on a trouvé cet amour, alors on peut commencer à travailler sur notre façon d'aimer.
Alors, dernière parole avant de clore et de prier pour que l'Esprit Saint vienne faire fructifier en nous ce qui a été semé. Prendre un événement qui s'est passé au début des Actes des Apôtres. Pierre et Jean vont au temple, à la belle porte, ils voient un paralytique qui bien sûr attend qu'on lui donne de l'argent. Et Pierre dit, de l'or et de l'argent je n'en ai pas. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et le malade, le paralytique, prend son grabat et se lève. Et même, il bondit, dit la parole. C'est la démarche à laquelle vous êtes conviés, à laquelle nous sommes tous conviés, nous les premiers. Le monde, et même l'Église d'ailleurs, heureusement d'ailleurs qu'elle s'occupe à un moment de donner de l'or et de l'argent aux malades et aux couples malades, parce que tous les couples sont malades d'amour, et c'est la psycho et c'est ceci et cela, et c'est vachement important. Mais à un moment, il y a le cœur du cœur de ce qui est nécessaire pour un couple. Ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et il a fallu que Pierre, en interpellant ce paralytique, il interpelle la foi de ce paralytique. Et donc, Jésus vient interpeller chacun de nous. Et quand Jésus va être exposé dans un instant, sur cet autel, c'est ce qu'il nous pose comme question. Est-ce que tu veux bondir de joie ? Est-ce que dans ton couple, tu veux bondir de joie? Ou tu veux rester dans ce que sont la plupart des moments de nos vies, à des moments de négociation entre nous, de compromis, d'amour entre deux eaux? Est-ce qu'on veut en rester là, ou véritablement, on veut rester au pied de la muraille, en disant « ouais, c'est pas top, mais enfin bon, il y a pire, bon, voilà, c'est vachement enthousiasmant comme vie conjugale. » Ou vraiment, voilà, ouais, je veux vraiment décrocher la timbale. Je veux vraiment décrocher la timbale. La timbale, elle est offerte à tout homme. Il n'y a pas un gagnant et 1000 perdants. Avec Jésus, il n'y a que des gagnants. La question, c'est pas son problème, c'est notre problème. Lui, c'est, comme on disait hier, c'est open bar. C'est prenez tout ce que vous voulez. Les grâces, je vous les donne tous, toutes, tout le monde. Maintenant, vous prenez ou vous ne prenez pas? Donc c'est la question. Est-ce que véritablement nous avons foi? Donc reprendre, on vous invite notamment à voir dans le Matthieu 9.
Alors, le texte de Matthieu 9, versets 27 à 31, vous pourrez peut-être le méditer pour commencer votre temps de prière avant de vous retrouver en couple et puis d'en parler aussi avec l'accompagnateur que vous allez rencontrer lors d'un rendez-vous qu'il va vous donner au moment où vous quittez cette chapelle quand vous aurez fini de prendre votre temps de prière.